Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette semaine, les Chemins de la philosophie vous proposent de redécouvrir une série d'émissions sur les méditations métaphysiques de René Descartes. Deuxième temps aujourd'hui, qui suis-je ? En compagnie du philosophe Jean-Luc Marion. Why are we here ? What's life all about ? Is God really real ? Or is there some doubt ? Well, tonight, we're going. Bonjour Jean-Luc Marion.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie.
Merci.
Vous êtes professeur à l'Université de Chicago, professeur émérite de l'Université Paris-Sorbonne, membre de l'Académie française. Vous avez écrit de nombreux ouvrages de philosophie, disons de phénoménologie, mais Descartes est votre premier amour, on peut le dire comme ça ?
Oui.
Bon, et donc vous êtes heureux d'y retourner, d'y revenir aujourd'hui ?
Je n'ai jamais quitté.
Très bien, alors vous allez nous guider justement au cours de cette seconde méditation métaphysique. Pour mémoire, les méditations métaphysiques de Descartes ont été publiées en latin en 1641. Elles correspondent à 6 journées d'introspection au cours desquelles Descartes cherche à détruire, c'est son terme, ses certitudes pour mieux fonder le savoir sur un socle stable. Hier, le narrateur des méditations s'est installé au coin du feu, en robe de chambre, et s'est interrogé sur la possibilité de prouver que son corps est bien à lui, qu'il n'est pas en train de rêver, que Dieu qui nous a créés n'est pas un malin génie qui nous fait tenir pour vrai ce qui tient de l'illusion. Nous l'avons laissé hier dans ce brouillard existentiel dans lequel il va se perdre encore plus aujourd'hui avant d'apercevoir la lumière qui va l'aider à s'en sortir. Ce doute qui l'assaille, c'est aussi celui qui traverse le siècle baroque. Pensez à Calderon, pour qui la vie est un songe sans aucun doute. Calderon donc, puis Descartes.
Nous vivons dans un monde si singulier que vivre même c'est rêver et que l'homme, je viens de l'apprendre, rêve sa vie jusqu'au réveil. Qu'est-ce que la vie ? Une ombre, une illusion. Et le plus grand des biens ne compte guère. Oui, toute la vie est un songe. Et les songes eux-mêmes, que sont-ils ? Du songe.
La méditation que je fis hier m'a rempli l'esprit de tant de doutes qu'il n'est plus désormais en ma puissance de les oublier. Et cependant, je ne vois pas de quelle façon je les pourrais résoudre. Et comme si tout à coup j'étais tombé dans une eau très profonde, je suis tellement surpris que je ne puis ni assurer mes pieds dans le fond, ni nager pour me soutenir au-dessus. Je m'efforcerai néanmoins et suivrai de rechef la même voie où j'étais entré hier, en m'éloignant de tout ce en quoi je pourrais imaginer le moindre doute, tout de même que si je ne connaissais que cela fût absolument faux. Et je continuerai toujours dans ce chemin, jusqu'à ce que j'aie rencontré quelque chose de certain, ou du moins, si je ne puis autre chose, jusqu'à ce que j'aie appris certainement qu'il n'y a rien au monde de certain. Je suppose donc que toutes les choses que je vois sont fausses. Je me persuade que rien n'a jamais été de tout ce que ma mémoire remplie de mensonges me représente. Je pense n'avoir aucun sens. Je crois que le corps, la figure, l'étendue, le mouvement et le lieu ne sont que des fictions de mon esprit. Qu'est-ce donc qui pourrait être estimé véritable ? Peut-être rien autre chose, sinon qu'il n'y a rien au monde de certain.
Il n'y a rien au monde de certain. La phrase revient 2 fois dès le début de cette méditation seconde, Jean-Luc Marion. On sait qu'il est près du feu et pourtant c'est une métaphore aquatique qu'il prend pour qualifier et décrire son état. Il dit c'est comme si j'étais tombé dans une eau très profonde. Cette eau très profonde, c'est ce qui est devenu le réel pour lui à ce moment-là.
Oui. Alors il faut bien comprendre que quand Descartes parle de l'indifférence entre la réalité et le songe, bon, il y a Calderon en tête, naturellement, ses lecteurs aussi. Il y a Rotrou, il y a Corneille, l'illusion comique. Il a Shakespeare, enfin non, il n'a sans doute pas lu Shakespeare, mais il a Montaigne en tête. C'est une situation, c'est presque un lieu commun de l'époque qui correspond à une véritable angoisse. C'est-à-dire que il y a eu un retour du scepticisme qui a été très développé à la suite des traductions de Sextus Empiricus et puis Montaigne, qui est le penseur qui s'impose, Charon. Il y aura Pascal bientôt. Donc la question est de savoir, non seulement les sens sont trompeurs, mais effet curieux de la révolution scientifique, si la vérité du monde physique, ce n'est pas la sensation, comme tout le monde dit, Descartes, Galilée, Mersenne, Kepler, tout le monde, mais c'est sa traduction mathématique, les mathématiques elles-mêmes sont totalement insensibles. Si vous n'êtes pas un mathématicien, vous ne comprenez rien au monde. Donc le monde sensible est une illusion, et sa version mathématique, outre qu'elle est purement hypothétique, est insensible. Donc d'une certaine manière, le réel fuit. Et ce qui était très étrange, il fuit parce que on en donne une traduction mathématisée et épistémologiquement plus certaine. C'est ça la situation de crise épistémologique profonde dans laquelle Descartes se trouve. Alors, la première méditation le laisse dans, au terme d'un raisonnement d'ailleurs assez complexe, dans la conviction que l'hypothèse est la plus vraisemblable, c'est que non seulement la vérité sensible sont totalement réfutables, discutables, muables, etc., mais que l'interprétation en termes de physique mathématique, du monde sensible, est elle-même peut-être une illusion. Et c'est là que commence ce qu'on appelle le cogito.
Pourtant, le terme n'est pas dans le texte.
C'est le premier point qu'il faut remarquer. Dans pratiquement tous les textes de Descartes, nous trouvons une formule qui peut se résumer en « cogito ergo sum »,« je pense donc je suis »,« je pense je suis », ou parfois même approchant une forme d'un raisonnement syllogistique, etc. Il y a un seul texte dans lequel on n'a pas « cogito ergo sum », c'est le texte central. «
Je pense donc je suis », oui. «
Je pense donc je suis », c'est le texte central, celui de la méditation 2, où Descartes a dit à la fois... dit à la place, je suis, j'existe. Cette pensée, chaque fois que je la pense, je relis le texte.
Je suis, j'existe est nécessairement vrai toutes les fois que je la prononce ou que je la conçois en mon esprit. Je suis, virgule, j'existe. C'est-à-dire, la question est celle de savoir s'il y a un lien de causalité. Et alors, quel est-il entre le fait de dire qu'il est, je suis, non, j'existe. Il n'y a pas de donc ici.
Non, mais d'ailleurs, il n'y a pas de lien de causalité.
Voilà.
Ça, c'est la conclusion du raisonnement. Et alors, ce raisonnement, la conclusion elle-même est tout à fait étrange. Parce qu'il ne s'agit pas d'un énoncé que je déduirais d'une vérité, par exemple, plus générale, une proposition plus générale qui serait « tout ce qui pense est ». Parce que, comme le dit Descartes dans d'autres textes, pour savoir que tout ce qui pense est, ce qui est vrai d'ailleurs, il faut que je vérifie d'abord sur un premier cas, c'est le mien. Donc il faut commencer par dire « je pense » et « si je pense, je suis ». Alors ici, il dit, c'est très curieux parce que le terme « penser » cogité dans la formule n'apparaît pas. Il dit « c'est énoncé, je suis, j'existe, chaque fois qu'il est proféré par moi, je traduis littéralement, ou qu'il est conçu dans mon esprit, est nécessairement vrai ». Alors, ce qui est frappant ici, c'est qu'il n'y a pas de déduction, il n'y a pas de donc, il n'y a pas de prémisse universelle, dont le cogito serait un cas particulier, il n'y a pas le mot cogito. Alors, c'est curieux, pourquoi est-ce que la pensée a disparu, puisque c'est elle, justement, qui va être le lieu unique de l'existence, c'est l'opérateur unique de l'existence. Alors, donc, il ne penserait pas à ce moment-là.
Et sur quoi peut-il s'appuyer pour dire qu'il l'est?
Oui.
Sur quoi se fonde le je suis, si ce n'est sur la pensée?
Et dans ce qui vient après, avant, il dit « hoc pronunciatum, excusez-moi, c'est ce que j'ai prononcé, ce qui est prononcé, en langage philosophique moderne, on dirait cette énonciation. Cette énonciation, je suis, j'existe, est nécessairement vraie quand ? Lorsque je la profère et lorsque je la conçois par mon esprit. C'est-à-dire lorsque je fais deux actes. Et ces deux actes sont des actes de pensée. Alors c'est tout à fait remarquable ici. La pensée n'est pas la première proposition dont on déduit que j'existe. Parce que dans ce cas-là, le lien entre les deux propositions, il n'a de sens lui-même que s'il est pensé. Donc le cogito, en fait, dans la formulation classique, cogito ergo sum, on devrait le comprendre, je pense que si je pense, je suis. Donc on pense deux fois. Mm-hmm. Et il y en a une, en un sens, où ce n'est pas de la pensée, on pense la pensée, mais ce n'est pas l'acte de pensée. Donc Descartes supprime « je pense ». Il ne dit pas « je pense » parce que penser, ce n'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait. Et au contraire, il dit deux fois l'acte de penser en disant « chaque fois que je le prononce et chaque fois que je le pense, que je le conçois, cela est vrai ». C'est-à-dire que si la pensée disparaît dans l'énoncé, c'est parce que c'est la pensée qui énonce. Donc Descartes fait ce qu'on appelle un performatif. C'est-à-dire, si je dis « j'existe », cela est vrai. Pourquoi ? Non pas parce que je peux démontrer que j'existe de manière sensible, mais parce que je fais un acte. Seulement un acte de pensée, mais un acte de pensée reste un acte. Donc il y a un acte, c'est pourquoi il dit exister, il y a un acte, et c'est en faisant cet acte, mais je n'ai les moyens de le faire que dans la pensée, que je suis.
Le problème étant que si on tire les conséquences logiques de cette affirmation, je suis, j'existe, qui donc est justifiée par l'acte lui-même, qu'il n'existe à proprement parler que lorsqu'il dit qu'il existe.
Absolument. Et c'est pourquoi Descartes ajoute, et c'est un autre caractéristique de ce qu'on appelle aujourd'hui un acte performatif, c'est que si ceci n'est vrai que « quoties et quem diu à chaque fois et aussi longtemps que je le dis ». C'est-à-dire, si je ne pense pas que je ne suis pas. Parce que j'ai aucun moyen de constater que je suis.
Alors, dans quelle mesure est-ce que ça vient en aide à Descartes que d'affirmer cela ? Parce que ça veut dire que,
c'est
du coup, qui est-il quand il ne dit pas qu'il est quelqu'un ?
C'est une question sur
l'identité redoutable.
Oui, mais c'est pour ça qu'il aura un assez long chemin pour arriver à prouver que même quand il n'y pense pas, il est quand même un acteur de pensée. Il lui faut pour cela quelques garanties, c'est-à-dire Dieu et deux ou trois autres choses. Donc il est juste au début de l'affaire. Mais, de manière, il a, si je puis dire, une existence en acte ponctuelle, minimale et simplement de pensée. Enfin, c'est déjà tout.
Mais moi, qui suis-je, maintenant que je suppose qu'il y a quelqu'un qui est extrêmement puissant et, si je l'ose dire, malicieux et rusé, qui emploie toutes ses forces et toute son industrie à me tromper ? Puis-je m'assurer d'avoir la moindre de toutes les choses que j'ai attribuées ci-dessus à la nature corporelle ? Je m'arrête à y penser avec attention. Je passe et repasse toutes ces choses en mon esprit et je n'en rencontre aucune que je puisse dire être en moi. Il n'est pas besoin que je m'arrête à les dénombrer. Passons donc aux attributs de l'âme et voyons s'il y en a quelques-uns qui soient en moi. Les premiers sont de me nourrir et de marcher. Mais s'il est vrai que je n'ai point de corps, il est vrai aussi que je ne puis marcher ni me nourrir. Une autre est de sentir, mais on ne peut aussi sentir sans le corps, outre que j'ai pensé sentir autrefois plusieurs choses pendant le sommeil que j'ai reconnu à mon réveil n'avoir point en effet senti. Un autre est de penser. Et je trouve ici que la pensée est un attribut qui m'appartient. Elle seule ne peut être détachée de moi. Je suis, j'existe, cela est certain. Mais combien de temps ? À savoir, autant de temps que je pense, car peut-être se pourrait-il faire, si je cessais de penser, que je cesserais en même temps d'être ou d'exister ? Je n'admets maintenant rien qui ne soit nécessairement vrai. Je ne suis donc, précisément parlant, qu'une chose qui pense, c'est-à-dire un esprit, un entendement ou une raison, qui sont des termes dont la signification m'était auparavant inconnue. Or, je suis une chose vraie et vraiment existante. Mais quelle chose ? Je l'ai dit, une chose qui pense. Et quoi davantage ? J'exciterai encore mon imagination pour chercher si je ne suis point quelque chose de plus. J'ai supposé que tout cela n'était rien, et que sans changer cette supposition, je trouve que je ne laisse pas d'être certain que je suis quelque chose. Jean-Luc Marion, ce qui est formidable dans ce texte, c'est la mise en scène de Descartes par lui-même, que l'on entend dans la prose elle-même. Et dans l'extrait que je viens de lire, on voit à quel point lui-même, finalement, se questionne, il établit un dialogue. Mais entre qui et qui ? Entre son âme et elle-même, dont il a du mal à prouver l'existence ? Entre son corps et lui, alors que son corps n'existe plus ?
Alors, très bonne question. C'est d'autant plus impressionnant que là, le texte qu'on vient de lire n'est pas de Descartes. C'est la traduction par le duc de Luynes.
Tout à fait, je lis en français, pardonnez-moi, mais je ne peux pas partir du principe que nous parlons tous latin.
Mais en latin, c'est encore plus frappant. Alors, il y a une discussion entre Descartes et Descartes, c'est tout à fait clair. Après la question « est-ce que je suis ?», il est passé à la question « qui suis-je » Non pas « qu'est-ce que je suis ?», comme si j'étais une chose, mais « qu'est-ce que je suis quand je dis « je » ?». Alors, pour comprendre ce dialogue-là, il faut revenir un peu avant ce texte-là, avant même le texte dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire la découverte de son existence par Descartes, en remontant au très étrange dialogue qui précède ce premier texte, où Descartes, je ne vais pas le lire en détail, mais Descartes reprend le point d'arrivée de la première méditation, à savoir qu'il y a ou bien un Dieu qui peut tout et me faire prendre pour des vérités, des choses qui sont évidentes pour moi, mais seulement en tant que je suis un entendement fini, donc qui ne sont pas absolument vraies. Ou bien un génie qui ne serait pas Dieu, mais qui me tromperait, en sorte que je ne devrais absolument pas faire confiance à ce qui m'apparaît le plus évident. Donc je pars de cette hypothèse. Et donc, j'en conclus que je ne pourrai jamais trouver une vérité. Alors, premier moment, Descartes dit, mais il n'est donc pas douteux que ego etiam sum si me fallit. Moi aussi, je suis s'il me trompe. C'est-à-dire, soit il y a un malin génie qui est une pure fiction. Et il dit, si ce malin génie qui n'existe pas me trompe, c'est l'hypothèse à laquelle je me suis rangé, par prudence, alors dans ce cas-là, il faut que moi aussi je sois. Donc, celui qui n'existe pas me fait être. Étrange. Alors, il se fait immédiatement une objection, mais puisque dans ce cas-là, il faudrait que je sois autre chose que mon corps, puisque je pense que je ne suis qu'un corps. Or, je ne suis pas un corps, je n'ai aucun énoncé que je puisse être autre chose qu'un corps, et donc peut-être que me trompe. Ou peut-être que toutes les idées que j'ai ne me viennent pas de l'extérieur de ce trompeur. Dans ce cas-là, c'est moi-même qui me trompe. Mais il ajoute, mais dans ce cas-là, ne suis-je pas moi aussi quelque chose si je me persuade que je ne suis rien ? Si c'est moi qui me persuade, je suis donc quelque chose. Et il en vient à cette idée que, dans l'acte même de douter, il y a toujours une dualité. Ou bien il y a un trompeur, ou bien c'est moi-même qui ai décidé de faire comme si je me trompais toujours pour être sûr de me tromper jamais. Le paradoxe du scepticisme. Et dans ce cas-là, « immo certe ego eram si quid mihi persuasi ». Évidemment, j'étais déjà quelque chose, j'étais déjà, si c'est moi qui me suis persuadé de quelque chose. C'est-à-dire que...
Alors dites-nous, pour ceux qui ne parlent pas latin et qui ne connaissent pas le texte, dites-nous clairement.
Je viens de vous le dire. Donc, j'étais, moi, si je me suis persuadé de quelque chose. C'est-à-dire, il s'aperçoit que son doute n'est pas un monologue. C'est toujours un dialogue.
Voilà, mais alors un dialogue entre qui et qui ?
Ben justement, c'est ça la chose géniale. C'est entre moi, qui ne suis pas, qui doute que je sois, et quelqu'un qui n'est pas, qu'on peut appeler Dieu Tout-Puissant, qu'on peut appeler le malin génie, ou qu'on peut appeler moi-même voulant me tromper. Mais c'est la structure dialogique qui est première. Et quant à la fin, le dernier argument, il dit « Il n'est donc pas douteux que moi aussi je suis si je me trompe. » On voit très bien que c'est le « je » qui s'est dédoublé lui-même. « Je suis si je me trompe. » Il y a deux fois « moi hein, ». Il y a « je » puis il y a « si je me trompe ». Et c'est le « celui qui me trompe est plus moi-même que moi-même ». Car si je dis, pardon, supposons que vous disiez, je ne suis pas.
Je ne suis pas.
Ben, vous avez prouvé le contraire de ce que vous dites, puisque vous l'avez dit.
En le disant, je prouve que j'ai tort.
C'est-à-dire que je contredis me. Moi, je ne suis pas. Celui qui dit contredit ce qu'il dit sur celui qui se laisse dire. Mmh. Et c'est ce que découvre Descartes. Alors, ça a une conséquence extraordinaire. La représentation habituelle du cogito, comme on dit, c'est que c'est la conscience de soi, l'auto-appréhension de soi, la position de soi par soi, l'identité à soi.
Sachant que le terme de conscience n'apparaît pas dans ce texte.
Hein. Il n'apparaît pas chez Descartes. Enfin, ici, une fois, mais c'est Locke. C'est la traduction française de Locke qui impose le terme de conscience. Donc, il n'y a pas de conscience de soi. Il n'y a pas l'égalité de soi à soi. La plupart des critiques du cogito qui ont été faites, par exemple à partir de Kant, posent que le cogito est l'identité de soi à soi. C'est ce que dit Fichte, Schelling, Hegel, etc. Or, c'est jamais le cas chez Descartes. Chez Descartes, l'expérience dite du cogito, c'est la différence de soi à soi. C'est donc une structure originairement dialogique. Alors, il y a quelqu'un qui l'avait compris, c'est Lévinas. Car Lévinas explique très bien que l'idée d'infini chez Descartes, que Descartes applique à Dieu mais que lui applique à autrui, que cette idée d'infini est toujours l'expérience que l'infini, qui est l'idée la plus fondamentale du jeu, précède le jeu. Et Descartes est dans cette situation.
C'est Saint-Augustin.
Mais c'est Saint-Augustin, bien entendu, tout le monde est augustinien à un moment ou à un autre.
Que Dieu est en lui, donc l'infini se trouve dans le fini.
Absolument, et donc c'est un dialogue de soi avec soi qui est un dialogue de soi avec ce qu'il y a en moi de plus intime que moi.
Et qu'est-ce que ça change pour Descartes et pour la philosophie de Descartes que de placer comme origine même, finalement, le socle stable de la connaissance pour Descartes, un dialogue et non pas une identité. C'est-à-dire que c'est pas une substance qui me permet de penser, je ne suis pas une chose pensante, mais deux choses qui dialoguent entre elles.
Oui.
Qu'est-ce que ça change, cette scission initiale ?
Eh bien, cette scission, elle va aboutir à la dernière formulation du cogito, une fois de plus, si le mot n'y est pas, qui est à la fin de la troisième méditation, lorsque Descartes dit que l'idée d'infini est la faculté par laquelle je conçois l'infini est la même que celle par laquelle je me conçois moi-même. Et que l'idée d'infini est antérieure à moi-même, en moi-même, à l'idée de fini, c'est-à-dire à l'idée de la pensée finie, c'est-à-dire la pensée de moi. C'est-à-dire que je suis infiniment plus large que moi-même. Et cette découverte de l'infinité dont je proviens et qui est moi-même plus que moi-même, est fondamental chez Descartes. C'est pour ça que à la fin du parcours de Descartes, du moins c'est ma thèse, la pensée apparaît comme essentiellement passive pour Descartes. Passive pourquoi ? Parce que je suis déjà donné à moi-même, sous la figure de l'idée d'infini, et le doute, d'une certaine manière, est une expérience d'emblée de l'ouverture sur ce qui n'est pas moi. C'est-à-dire que la première forme de la pensée, ce soit le doute, c'est quand même étrange, puisque dans le doute, on ne sait rien, sinon que la pensée est encore là, même quand elle est vide. Quand par elle-même elle est vide, elle est pourtant déjà de la pensée. Donc la pensée n'est pas une pensée de soi, c'est une pensée de tout ce qu'elle ne sait pas. Donc la pensée est infiniment plus vaste qu'elle-même. Et donc, il n'y a pas de solipsisme chez Descartes.
Alors, on va prendre un exemple, hein, puisque là, on a été très précis en traduisant du latin au français. Vous avez eu le temps de présenter votre thèse, Jean-Luc Marion, je vous en remercie. On va prendre un exemple qui va peut-être parler à ceux des auditeurs qui ont étudié Descartes en classe de terminale, ce qui arrive souvent. On cite, le « on » étant très général, et tous ceux qui ont fait un petit peu de philosophie, souvent ce texte du morceau de cire qui a le grand mérite non seulement d'incarner ce que nous venons de dire dans un exemple précis, mais aussi de figurer la démarche même de Descartes qui tente, on pourrait le dire ainsi, de montrer que le réel est insaisissable, qu'on ne peut pas le nommer, qu'il est donc sans cesse changeant. Écoutez donc l'extrait. L'exemple du morceau de cire, nous sommes dans la seconde méditation métaphysique et c'est Jean-Louis Jacopin qui l'interprète.
Prenons pour exemple ce morceau de cire qui vient d'être tiré de la ruche. Il n'a pas encore perdu la douceur du miel qu'il contenait. Il retient encore quelque chose de l'odeur des fleurs dont il a été recueilli. Sa couleur, sa figure, sa grandeur sont apparentes. Il est dur, il est froid, on le touche, et si vous le frappez, il rendra quelques sons. Enfin, toutes les choses qui peuvent distinctement faire connaître un corps se rencontrent en celui-ci. Mais voici que, cependant que je parle, on l'approche du feu. Ce qui y restait de sa saveur s'exhale. L'odeur s'évanouit, sa couleur se change, sa figure se perd. Sa grandeur augmente, il devient liquide, il s'échauffe. À peine le peut-on toucher, et quoi qu'on le frappe, il ne rendra plus aucun son. La même cire demeure-t-elle après ce changement? Il faut avouer qu'elle demeure, et personne ne le peut nier. Qu'est-ce donc que l'on connaissait en ce morceau de cire avec tant de distinction? Certes, ce ne peut être rien de tout ce que j'y ai remarqué par l'entremise des sens, puisque toutes les choses qui tombaient sous le goût ou l'odorat ou la vue ou l'attouchement ou l'ouïe se trouvent changées et, cependant, la même cire demeure. Peut-être était-ce ce que je pense maintenant, à savoir que la cire n'était pas ni cette douceur de miel, ni cette agréable odeur de fleurs, ni cette blancheur, ni cette figure, ni ce son, mais seulement un corps qui, un peu auparavant, me paraissait sous ses formes, et qui, maintenant, se fait remarquer sous d'autres. Mais qu'est-ce, précisément parlant, que j'imagine, lorsque je la conçois en cette sorte? Considérons-la attentivement, et, éloignant toutes les choses qui n'appartiennent point à la cire, voyons ce qui reste. Certes, il ne demeure rien que quelque chose d'étendu, de flexible et de muable. Or, qu'est-ce que cela, flexible et muable? N'est-ce pas que j'imagine que cette cire, étant ronde, est capable de devenir carrée et de passer du carré en une figure triangulaire? Non, certes, ce n'est pas cela, puisque je la conçois capable de recevoir une infinité de semblables changements, et je ne saurais néanmoins parcourir cette infinité par mon imagination. Et par conséquent, cette conception que j'ai de la cire ne s'accomplit pas par la faculté d'imaginer.
On a dit que Descartes allait sortir de sa noyade. Hein. Il ouvre la seconde méditation en disant qu'il se trouve en des eaux très profondes dont il n'arrive pas à sortir. Mais avec ce texte qui a le mérite d'exprimer clairement où est le problème, on a encore plus de mal à voir l'issue, Jean-Luc Marion, puisque finalement, si le morceau de cire change selon qu'on l'approche d'une source de chaleur ou non, d'odorat, de texture, de forme, c'est donc bien que du morceau de cire, mais on pourrait prendre un autre exemple, Clément Rosset prend le morceau de camembert comme exemple, il en tire exactement les mêmes conclusions, on ne peut rien dire, et donc que du réel lui-même sans doute, on ne peut rien dire de manière définitive, nous voilà bien avancés.
Et oui, on est très avancés au contraire. Non, reprenons le fil du raisonnement de Descartes. Il arrive à cette conclusion que je suis, j'existe, chaque fois et aussi longtemps que je prononce ou que je pense cet énoncé. Donc, il y a bien de l'être, mais cet être est purement intellectuel, intelligible. C'est quand même pas un paradoxe, puisque spontanément nous sommes prêts à penser que ce qui est, c'est justement, comme nous disions, le réel, c'est-à-dire ce qui est par moi, ce qui est en dehors de ma pensée. Alors Descartes dit, bon, très bien, je n'arrive pas à vous convaincre que le réel, c'est la pensée, que le premier réel, c'est la pensée. Eh bien, on va prendre un autre exemple. Qu'est-ce qu'il y a de plus réel en dehors de la pensée pour la conscience commune? Prenons un cas où il y a les cinq sens sont concernés, le morceau de cire ou le morceau de camembert. Bon. Dans le morceau de cire, ce qui est admirable, c'est qu'il y a le toucher, la vue, l'odeur, tout. Bon. Ça semble donc indiscutablement réel. Ben, je vais vous montrer que ça ne l'est pas au sens où vous l'entendez. On l'amène près du feu. Tout ce qui est connaissable par les sens change, devient soit différent, soit inconnaissable.
Avant, il était dur, froid, et si on le frappait, il rendait quelques sons, il devient mou, chaud, et il n'émet plus de sons.
On ne peut plus le toucher, l'odeur, le parfum a disparu,
etc. Ouais.
Bon. Et il n'est pas question de le prendre sur la langue. Donc, de manière sensible, l'identité de ce réel a totalement changé. Alors, qu'est-ce que je peux dire qui reste? Est-ce que je peux dire simplement, c'est de l'étendue? Qu'est-ce qu'on entend par étendue à ce moment-là? Ben, c'est le changement de figure. Ça, c'est de l'imagination. Mais comme ce changement de figure peut être infini, une fois que j'ai dit que c'est de l'étendue, je peux donner aucune figure précise. Donc, même là, je ne le sais pas. Donc, je ne peux ni le sentir, ni l'imaginer, ce qui est réel dans le morceau de cire. Donc, qu'est-ce qui reste? Ben, la seule chose, parce que ça n'a pas été lu, c'est pourtant la conclusion du texte. Il reste donc que je concède que je ne peux même pas imaginer ce que c'est que cette cire, mais que je peux seulement le mente concipere, le percevoir par l'esprit. C'est-à-dire que le réel sensible, au bout du compte, c'est une perception par l'esprit, c'est une perception intellectuelle. Alors, il reprendra un autre exemple, qui est d'ailleurs fascinant, très court. Il dit, la cire, c'est, ce que je sais de la cire, c'est un jugement purement intellectuel. Je dis, c'est la même cire. Je n'ai d'autre motif de le dire qu'un motif intellectuel. C'est au même endroit la même chose, mais je ne peux pas expliquer ce qu'il y a de commun entre les deux états. De la même manière, dit-il, supposons que je sois à la fenêtre du premier étage, donnant sur une petite rue étroite, comme les rues, disons, d'Amsterdam au début du XVIIe siècle. Et juste en bas, à 50 cm de moi, de l'autre côté de la vitre, je vois passer des gens dans la petite rue. Et ces gens, en fait, je vois les manteaux et les chapeaux. Ils sont en dessous, peut-être protégés en plus par une perruque. Donc je ne les vois pas. Ça pourrait parfaitement être des automates. Et pourtant, ce sont des hommes. Comment est-ce que je le sais? C'est pas du tout parce que je vois qu'ils sont des hommes. C'est parce que je le juge. Mon rapport au réel, c'est un rapport de jugement.
Voilà, voici ce qu'il écrit. Si par hasard, je regardais d'une fenêtre des hommes qui passent dans la rue, à la vue desquels je ne manque pas de dire que je vois des hommes, tout de même que je dis que je vois de la cire. Et cependant, que vois-je de cette fenêtre? Sinon des chapeaux et des manteaux qui peuvent couvrir des spectres ou des hommes fins qui ne se remuent que par des ressorts. Mais je juge que ce sont de vrais hommes et ainsi je comprends par la seule puissance de juger qui réside dans mon esprit ce que je croyais voir de mes yeux.
Oui, la thèse de Descartes, c'est que nous croyons que nous connaissons les choses par la sensation ou par l'imagination. Et en fait, nous, en dernière instance, ce que nous jugeons être, que ce soit moi ou que ce soit les choses, c'est par la pure pensée que nous les décidons.
Mais ça veut dire aussi que ce jugement n'est peut-être en rien en adéquation avec le réel. Je décide que la cire est la cire, que sous les chapeaux et les manteaux il se trouve un homme. Je n'ai pas de confirmation sensible, à proprement parler, je n'ai pas de confirmation de cette affirmation.
Et oui, mais enfin,
peut-être me trompais-je, peut-être. Oui, je décide qu'il en est ainsi, mais ça reconduit l'argument du malingénie et du scepticisme radical.
Non, c'est pire que ça. ça nous reconduit à la situation contemporaine. C'est-à-dire que nous pensons que ce que nous concevons rationnellement, nous sommes du fait même autorisés, voire même incités, voire même obligés de le réaliser effectivement. C'est le grand principe, tout ce qui est possible deviendra ou est déjà effectif. C'est pas seulement le principe californien, mais c'est le principe de Hegel. Tout ce qui est rationnel est effectif, tout ce qui est effectif est rationnel. C'est cette thèse-là, c'est-à-dire la thèse du monde technique, c'est-à-dire du nihilisme, où les choses ne sont jamais que la réification de notre pensée. Ce qui fait que le monde peut être à la fois effectif et rationnel, et n'être qu'un songe ou un cauchemar.
C'est ça.
Oui, mais attendez.
Le monde n'est ce que j'en fais, ce que je décide qu'il est.
Oui, mais heureusement, il y a un principe de vérification, qui sont les catastrophes et les crises, qui sont notre seule chance de salut, je veux dire. La crise écologique.
Merci de délivrer un message d'optimisme ce matin.
Oui, la crise écologique, c'est justement ça. La crise écologique, c'est que le monde tel que nous pensons qu'il doit être pour être effectif et réel, c'est-à-dire celui que nous produisons sur les fondements de notre pensée, ce monde-là ne coïncide pas avec le vrai monde. Et c'est l'écart entre les deux, c'est ce qu'on appelle la crise écologique. C'est-à-dire il y a des déchets, il y a des choses qui ne peuvent pas être récupérées, enfin, etc. Tout. Cet écart entre ce que Husserl appelait la Terre qui, elle, ne se meut pas, et le monde tel que nous l'imaginons, cette crise, qui est la crise écologique ou la crise technocratique, c'est la même, ou la crise capitaliste, cette crise, elle est l'indice que le monde est peut-être ce que nous pouvons concevoir, mais il n'est sûrement pas uniquement ce que nous pouvons concevoir.
Mais ça veut dire quand même que Descartes fonde sa pensée sur un déni du réel.
Non. Sur la définition métaphysique du réel. Non, c'est pas pareil. C'est-à-dire que l'époque moderne est le moment où l'immédiateté du rapport à la chose même disparaît. Et où il faut retrouver un autre accès à la chose même, et l'accès qui est à la chose même, c'est le concept. C'est la cogitation, c'est la pensée. C'est ce qu'on appelle la métaphysique au sens moderne du terme. C'est-à-dire le moment où c'est par la pensée que nous arrivons au réel. Peut-être. Et nous sommes tous cartésiens en ce sens, nous avons été cartésiens pendant 3 siècles, et maintenant nous arrivons au terme de cette possibilité théorique. C'est-à-dire, est-ce que le monde vient après notre pensée ? C'était notre projet, nous l'avons cru dur comme fer. Alors maintenant, la question est de savoir si le monde ne précède pas notre pensée. Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire ? Sur la nature de notre pensée. C'est le vrai, le véritable enjeu. Et donc, si vous voulez, on me reproche souvent d'être obsédé par la critique de la métaphysique, le dépassement de la métaphysique, mais le dépassement de la métaphysique, pour moi, c'est très précisément ceci. Est-ce que nous pouvons concevoir que notre conception soit précédée par le monde, et non pas notre conception précédant le monde ? C'est pour ça que la phénoménologie est si intéressante.
Qui est cette manière de décrire ce qui est ?
Ben, c'est l'effort pour décrire ce qui est, plus exactement, on va le dire autrement, Kant oppose toujours ce qui apparaît, le phénomène, et puis les choses telles qu'elles sont en elles-mêmes, qui n'apparaissent pas, du moins conformément à nos conditions pour l'apparition, et qui sont en soi. Et que donc, nous sommes toujours dans le monde des phénomènes et pas dans le monde des choses en soi. Ce qui est une très bonne description de la crise actuelle. Nous sommes toujours parmi les phénomènes, mais nous ne savons pas, au fond, comment le monde se constitue. Alors, la phénoménologie a l'ambition folle, mais dans l'état de crise, la folie est parfois la seule position raisonnable, de dire il faudrait que ce soit les choses en soi qui apparaissent, que le phénomène soit l'apparition de l'en soi. C'est l'inverse de la deuxième méditation Descartes. Je ne dis pas l'inverse de Descartes parce que Descartes va plus loin, mais c'est une autre histoire.
Mais Descartes convoque Dieu surtout, c'est grâce à Dieu aussi qu'il va pouvoir s'en sortir, sans faire de spoiler sur la suite.
Oui, à condition. Tout le problème, c'est de savoir quel Dieu. Parce qu'il y a, une partie de la doctrine de Descartes sur Dieu, pas toute la doctrine de Descartes sur Dieu, où Dieu n'est que l'hypertrophie de notre propre pensée. Et c'est cette voie que suivra la métaphysique classique.
On parlera demain de la possibilité ou non de démontrer l'existence de Dieu, de la nécessité dans laquelle se trouve Descartes de convoquer Dieu existant pour se fonder lui-même rationnellement. Mais revenons à la méditation seconde. Elle va se terminer et, de son propre aveu, Descartes dit qu'il n'a pas vraiment avancé. Voici les lignes qui concluent cette méditation. « Mais enfin, me voici insensiblement revenu où je voulais. » Car puisque c'est une chose qui m'est à présent connue, qu'à proprement parler, nous ne concevons les corps que par la faculté d'entendre qui est en nous, et non point par l'imagination ni par les sens, et que nous ne les connaissons pas de ce que nous les voyons ou que nous les touchons, mais seulement de ce que nous les concevons par la pensée, je connais évidemment qu'il n'y a rien qui me soit plus facile à connaître que mon esprit. Mais parce qu'il est presque impossible de se défaire si promptement d'une ancienne opinion, il sera bon que je m'arrête un peu en cet endroit, et que par la longueur de ma méditation, j'imprime plus profondément en ma mémoire cette nouvelle connaissance. » Là où ce texte est génial, Jean-Luc Marion, c'est que Descartes ne cesse de prendre en compte, disons, la faiblesse humaine et la force de l'habitude. C'est qu'il a beau essayer de tout déconstruire, quelque chose revient sans cesse l'empêcher de mener à bien son projet. C'est la force de l'habitude, c'est la paresse, disait-il dans la première méditation. Ici, l'impossibilité de se défaire d'une ancienne opinion. Les opinions, quand elles sont fausses, impriment tellement notre caractère, parce que c'est de ça dont il est question, qu'il est très difficile de faire table rase de cette constitution originelle pour pouvoir avancer de manière purement conceptuelle dans le cheminement qu'il se donne au sein des méditations.
Bien sûr. Mais là évidemment, il y a une doctrine de la facticité, comme on dit. C'est-à-dire du fait que je suis comme je suis au moment où je suis et je ne peux pas me changer. C'est un souvenir, d'ailleurs, pour une large part de saint Augustin, qui ne cesse d'expliquer que c'est une chose de finir par se convertir, mais une fois qu'on croit en Jésus-Christ et qu'on est chrétien, on reste quand même dans l'état où on était avant. Et pour ça que la tentation revient toujours, etc. C'est-à-dire que je ne peux pas me refaire.
Il ne suffit pas de vouloir changer pour pouvoir changer.
Exactement. Et que c'est pourquoi le texte s'appelle des méditations.
Oui, pourquoi méditation ?
Alors, on va le dire autrement, pourquoi est-ce que c'était publié sous le format, tout petit format de Hindus, format du livre de poche ? Plus petit même que le livre de poche. Parce que c'est un livre de prière qu'on peut mettre dans sa poche et qu'on a en permanence. Et Descartes n'a publié qu'un seul volume, qu'un seul livre dans ce format, c'est les méditations. Méditation, c'est un titre de livre théologique ou de spiritualité. C'est un livre de spiritualité en ce sens qu'il faut, comme dira Leibniz, Spinoza, réformer l'entendement. Il faut se convertir, se réformer. Alors, dans le cas de Descartes, c'est mi-philosophique, mi-théologique, parce qu'il y a une dimension théologique, évidemment. Il s'agit de se rénover, de devenir un autre homme à la fin de l'exercice.
Comme souvent chez Descartes, il y a une dimension morale, pratique à ses écrits, en réalité.
Oui, pratique, morale, mais je dirais même théologique, parce que on sent bien une influence du style des exercices spirituels de Saint-Ignace. C'est-à-dire, à la fin des méditations, on devrait être devenu un peu un autre homme, et penser autrement. Mais ça va prendre du temps, et ça va être très difficile. Et à la fin de chaque méditation, il y a une reprise, une espèce de bilan. Alors là il dit, je vais garder mes mauvaises habitudes quelque temps, je le sais. Il va donc que je pense contre moi. À la fin de la troisième méditation, il y aura une espèce d'élévation spirituelle où il emploie le verbe « adorer Dieu ». C'est quand même dans un livre de philosophie, c'est un peu étrange, un peu surprenant, mais quoi que ce soit très logique. Donc, en règle générale, Descartes essaie de penser contre ce qu'il était. C'est pour ça, c'est une très grande leçon. Pourquoi est-ce qu'en philosophie, il faut qu'il y ait des paradoxes? Pourquoi une philosophie sans paradoxe, pour parler comme Kierkegaard, c'est comme Don Juan sans désir. Il n'y a rien de plus ennuyeux, ça n'a aucun intérêt. Donc une philosophie doit être pleine de paradoxes. Pourquoi? Parce que la philosophie, si ça a un intérêt, ça consiste à penser contre l'inclination spontanée de notre pensée, parce qu'à la plupart du temps, nous croyons penser, en fait, nous répétons ce que tout le monde répète. Hein. Comme dans le petit dessin de Sempé, vous savez, on voit un soir de juin, les fenêtres sont ouvertes et tout le monde fait une partie. Et alors, il y a 10 étages, et donc il y a 100 fenêtres ouvertes avec des foules de gens qui disent « il y a une chose que je ne supporte pas, c'est de répéter ce que tout le monde répète ». Bon, eh bien, quand nous pensons, c'est ce que nous faisons. Donc, on ne commence à penser personnellement que si on ne pense pas comme tout le monde, c'est-à-dire quand on fait un paradoxe. Et Descartes, et d'une certaine manière, fait des paradoxes. Et dire « je suis » chaque fois que je dis « je suis », c'est un paradoxe. Dire « le morceau de cire », on ne le sent pas, on ne l'imagine pas, on en juge, c'est un paradoxe. Mais si vous ne dites pas ces paradoxes-là, vous ne dites rien.
Alors, laissons, comme le dit Descartes, imprimer plus profondément en notre mémoire cette nouvelle connaissance.
Je suis un poète assis sur un nuage et je vois la terre du haut des cieux. Je lis dans les cœurs, je lis sur les visages, je lis dans les yeux, je vois dans les têtes, à la belle fête, oui, je vois que chacun rêve. Rêve sans trêve, ce sont droits. Le clochard rêve, rêve d'un hôtel. L'abeille rêve, rêve de son miel. Le curé rêve, rêve d'être au ciel. Moi je rêve de vos yeux, mon amour. Le caissier rêve, rêve d'addition. Le rentier rêve, rêve de coupons. L'athlète rêve, rêve de champion. Et moi je rêve de vos yeux toujours. Et le bon Dieu, tout près de moi, m'a dit c'est toi qui as raison. C'est toi, tant pis pour eux. Tant mieux pour toi, c'est merveilleux. Moi, je ne sais rêver que d'amour. La cloche rêve, rêve du bedeau. Le vigneron rêve, rêve de tonneau. Les femmes rêvent, rêvent de chapeau. Et moi, je rêve de vos yeux, m'amour. Je vois tour à tour les grands oiseaux qui passent. Et tous les humains me semblent des fourmis. Seul de tous les rêves qui jouent dans l'espace. Mon rêve est joli, je vais redescendre. Et je vais surprendre sans pudeur le cœur fragile, les yeux dociles de mon cœur. Et moi je rêve de vos yeux, mon amour.
Chacun son rêve, c'est Charles Trenet qui le dit, mais a-t-on vraiment le choix? C'est Descartes qui pourrait lui objecter. Merci à vous Jean-Luc Marion d'être venu nous parler de Descartes aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs à vos ouvrages sur le prisme métaphysique de Descartes, ainsi que les questions cartésiennes, on les trouve au PUF. Une reprise du donné aussi, votre dernier ouvrage qu'on trouve également au PUF. Il y a une brève apologie aux éditions Grasset. Bref, beaucoup de lectures en vue, on les mettra sur le site des Chemins de la Philosophie, évidemment, pour que les auditeurs puissent s'y référer. Sur France Culture à 10h48, il est temps de retrouver Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillon. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Comme tous les jours, vous nous donnez envie de lire un livre qui vient de paraître. Quel livre a retenu votre attention aujourd'hui?
Je vais vous parler de quelqu'un qui ne pense pas comme tout le monde, qui ne répète pas comme Descartes. Ce qu'il entend, c'est Fernand Deligny et ce sont ses lettres à un travailleur social que l'on trouve aux éditions de l'Arachnéen.
Mutique, ce gamin-là. Alors, à quoi se fier? À quoi se fier lorsqu'il fait défaut? Le langage.
Dans les années 60 et 70, dans un hameau des Cévennes, Fernand Deligny fait une tentative, celle de créer un milieu éducatif alternatif pour des autistes. Il en ressortira une dizaine de livres et puis ce documentaire, ce gamin-là, où on entend la voix de Deligny parler de Jean-Marie, enfant mutique qui oppose son silence à sa parole. Mais il faut remonter à 1945 et à la parution du livre militant et fait d'aphorisme, Graines de crapule, qui se voulait conseil aux éducateurs qui voudraient la cultiver, pour connaître la voix de Fernand Deligny, celui qui restera justement comme l'une des grandes voix de l'éducation spécialisée, grande voix que l'on retrouve dans ses lettres écrites en 1984-85, où là encore on suit la langue de Deligny, sinueuse, ingénue ou parfois hermétique, comme le reproche lui a souvent été fait. Tout est donc bien une question de langage avec Fernand Deligny, de voix, de parole ou alors de silence. Mais entre la parole et le silence, lequel des deux est le plus parlant? Ou entre la parole et le silence, lequel révèle le plus que le langage fait défaut, comme on l'a entendu? Les mots qui nous mènent en bateau ou le mutisme à qui l'on fait tout dire, à quoi donc se fier? Eh bien, il faut le dire, ces 50 lettres à un travailleur social ne répondent pas à ces questions. Elles ne font que les soulever et même elles les corsent. En s'adressant à un travailleur social, quel qu'il soit, en refusant de donner des conseils, Deligny souligne la tension même qu'il y a à être un travailleur social. Un travailleur du social, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille le social, travaille les mots qui le constituent et nous lient, ou au contraire nous séparent. C'est ainsi que Deligny peut bien dire, je cite, qu'une société ne craint pas ses propres mots qui lui donnent conscience d'elle-même, mais peut bien y préférer malgré tout les faits qui résistent, le hasard jamais définitif ou les infinitifs infinis.
Fernand Deligny, on n'en parle pas assez, y compris sur les chemins, et on va essayer de corriger ça.
Ah ben là, on peut déjà au moins lire ses lettres à un travailleur social, donc de Fernand Deligny, avec une postface de Pierre Macheret, et c'est paru aux éditions de l'Arachnéa.
Merci à vous Géraldine, merci à Jean-Luc Marion qui a déjà bourré sa pipe en studio, merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Nicolas Bouteloup qui a préparé cette émission, Livia Garrigue, Antoine Ravon, Marianne Chassor. Un immense merci à Nicolas Berger qui nous a sauvé la vie aujourd'hui, grâce à qui cette émission a eu lieu, et un bon rétablissement à Olivier Bétard. Une grande pensée très amicale à Jean-Louis Jacopin qui a lu les textes cette semaine. Et merci à Bruno Gagnère-Fontani qui était à la prise de son. Pour réécouter cette émission ainsi que toutes celles de cette semaine, c'est très facile. Vous vous rendez sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez la réécouter en ligne, même la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et il est des émissions qu'il est bon de réécouter plusieurs fois. Vous voyez ce que je veux dire. Rendez-vous demain à 10h pour la suite des Chemins de la Philosophie. Mais tout de suite, restez à l'écoute sur France Culture.